Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Deux chavannes cherchent copains. Mais c'est quoi ce truc?
Bah, c'est quoi ce truc? Bah oui, je cherche des copains. Alors c'est un podcast, mais où effectivement je vais rencontrer des gens. Je m'enflamme pour des causes. Défenseurs de cannabis, vaccinologues, des stars du dessin, des médias, des auteurs, des associatifs, des hommes politiques. Attendez, on est allé jusqu'au président de la République, vous voyez. Des blogueuses, des blogueurs, des jeunes, des moins jeunes. Et puis des TikTokers. Alors,
des TikTokers.
Ah, des TikTokers. Je suis con, des TikTokers, je kiffe en fait. Et j'espère bien que mon podcast va me permettre de rencontrer des gens de qualité. Et je chante même. De chavannes cherchent copains. De chavannes cherchent copains. A tout de suite les amis.
Bonjour tout le monde, je suis absolument ravi dans ce podcast nouveau de recevoir un jeune homme, un Italien. Donc on va être obligé de parler italien pendant tout le podcast.
Ça va être très court ce podcast, oui. Christophe.
Oui, parce que vous savez dire en italien, vous savez dire...
Prego, gnocchi, pizza.
Et avec un accent de merde.
Non, merci Christophe.
Bon, je suis ravi de vous recevoir en tout cas, Lucas Caltritti.
Si.
Parce que ça c'est votre vrai nom, d'origine italienne. Donc,
tout à fait. Hein,
évidemment, grands-parents immigrés en France, parents...
vous, français.
Vous ayant... non, parents italiens. Ah oui, vos parents sont nés en Italie.
En France.
Ah, vos parents sont nés en France.
Ouais.
Ah, donc français. Tout ça pour dire que ça n'a strictement aucun rapport avec ce que vous faites en ce moment, parce que vous êtes un peu le roi des écolos. C'est-à-dire... vous êtes, non, mais je vous ai écouté. D'abord, vous avez une très belle voix,
merci.
Jeune homme. C'est vrai,
merci.
En votre podcast, vous avez une super belle voix. Et vous avez décidé... quand d'ailleurs, de vous exprimer sur cette chose qui devrait être révolutionnaire, qu'est l'environnement, l'écologie. Quel âge avez-vous d'abord ?
J'ai 28 ans, bientôt 29. Mmh. Et j'ai commencé à parler de ça il n'y a pas très très longtemps, il y a 3-4 ans en vérité. Ça a commencé pendant le premier confinement, où comme pas mal de gens...
On commençait quelque chose ?
Je m'embêtais un petit peu, hein, pour rester poli.
Vous étiez tout seul ?
Et non, j'étais avec ma compagne.
Mmh. Toujours la même ?
Toujours la même.
Très bien.
Toujours la même.
Très bien.
Mais
on la saluera.
Hein.
Non, mais elle est là, c'est pour
elle
ça.
Est là, ouais. Elle est là.
Parce qu'en même temps, c'est votre compagne et votre productrice.
C'est ça.
Vous faites ça à l'italienne. Mama al forno et papa al comptoir.
De façon très moderne, hein, du coup.
Oui,
voilà, c'est
voilà.
Ça. Non, mais en fait, ça a commencé pendant le premier confinement où j'ai commencé un peu à m'intéresser à ces sujets, à cette thématique.
Avant, pas du tout.
Avant, mais absolument pas.
Ah, c'est drôle.
Et le pire, c'est que, au-delà de ça, j'étais même comme, je pense, en vrai, pas mal de gens, j'étais anti-écolo. Parce que moi, l'écologie, ce que j'en avais, c'était des invectives, c'était des débats, c'était ce qu'on appelle l'écologie punitive.
Enfin, ça n'a pas 15 ans non plus, le confinement.
Non. Ah ouais, mais ça a changé de façon assez rapide, c'est vrai.
Vous avez carrément viré votre cutie, quoi.
On peut dire ça.
Bah oui, parce que si vous étiez quasiment anti-écolo,
ouais.
Avec ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire un mec à la recherche, par exemple, de sponsors, mais qui soient des sponsors entre guillemets propres, donc que vous avez du mal à trouver.
J'ai fait pas mal de chemin.
Ouais.
J'ai fait pas mal de chemin. Non, mais en fait, j'ai commencé à fouiller ces questions-là pendant le premier confinement, sans être forcément non plus écolo, mais je m'y suis intéressé.
Ça veut dire quoi ? Ça se traduisait comment ?
Bah en fait, j'ai fait un premier podcast. Qui s'appelait Yelfe au lac, qui était produit par Ouest France, où je débunkais des idées reçues sur l'écologie. Est-ce que...
Alors débunker, pour ceux qui nous découvrent, parce
pardon.
Que moi je m'adresse pas que à des gamins.
Hein. Ouais, pardon. Qui essayait de voir si les idées reçues qu'on avait sur l'écologie étaient vraies ou fausses. Typiquement, est-ce que la voiture électrique, elle est écologique ? Est-ce que supprimer ses mails, c'est une bonne action pour le climat ?
Oui.
Non.
Arrête tes conneries.
Non, pas du tout.
Alors
ça, c'est complètement une idée reçue.
Ah, c'est drôle ça, alors. Moi, j'ai fait une émission qui s'appelait « Du fer dans les épinards » pour lutter contre les idées reçues.
Ouais.
Donc ça m'intéresse beaucoup. Et j'étais absolument persuadé, comme tous les papiers que j'ai pu lire, qu'envoyer un mail était polluant à crever. Et que même si on peut éviter les consignes dans les bureaux, y compris chez moi, les consignes...
Les pièces jointes.
Si vous pouvez éviter les pièces jointes, c'est bien. Et si surtout, de ne pas répondre « Ok, bien reçu ».
En fait, le plus important... dans le numérique, c'est la construction des terminaux, donc des appareils, donc les ordinateurs, les tablettes, les téléphones. Et en fait, c'est ça qui est le plus polluant. Et l'essentiel des gaz à effet de serre du numérique, c'est ça. Donc en gros, il faut garder ses téléphones le plus longtemps possible, ses ordinateurs le plus longtemps possible. Il ne faut pas acheter d'objets connectés dont on n'a pas un besoin absolument vital. En revanche, supprimer ses mails ou limiter son utilisation de Netflix, par exemple, c'est vraiment peanuts, mais vraiment.
Parce que, enfin, supprimer ses mails, c'est des centaines de milliards de mails par jour, j'imagine.
Ouais.
Mais ça fait quand même tourner ces gros machins.
C'est vrai. Non, mais en fait, ça paraît très impressionnant. Mais au final, c'est pas tant que ça. Quand on regarde.
Ça, vous êtes certain. Hein.
Ah, mais surtout, c'est pas moi qui le dis en plus.
Mais non,
moi,
mais
j'ai
comment...
pas fait d'études, c'est vraiment les scientifiques qui ont fait des études.
Comment vous m'expliquez que j'ai pu lire des papiers dans des journaux sérieux, comme quoi envoyer des mails, c'était de la merde?
Parce que les journalistes sont pas bons en science.
C'est ça, ils vont pas chercher.
Non. Et moi, le premier, et en fait, on comprend pas souvent. Et en fait, c'est ce que j'ai appris justement en m'intéressant à ces sujets-là pendant le premier confinement.
Qu'est-ce que vous avez lu?
J'ai lu vraiment les rapports du GIEC. J'ai écouté des interviews de scientifiques du GIEC, des climatologues, etc. Je les ai moi interviewés à mon tour. Trump, par exemple,
oui,
voilà,
oui.
Éric Zemmour, enfin les grands
penseurs
du climat. Non, pas du tout. Notamment Valérie Masson-Delmotte, qui est une paléoclimatologue française, qui est absolument incroyable, qui a été classée par Forbes. Parmi les 100 femmes les plus influentes au monde. Elle est absolument incroyable, cette femme. Et il faut qu'on l'entende beaucoup, beaucoup, beaucoup plus.
Elle est plus influente que Greta Thunberg.
Elle participe à la rédaction des rapports du GIEC, en tout cas. Ouais. Je ne sais pas si elle est plus influente ou pas. Après, ça, c'est un peu du doigt mouillé aussi. Mais en tout cas, elle est incroyable. Elle est française. On a une chance folle de la voir chez nous. Et il faut qu'on l'écoute beaucoup plus. Et elle a une capacité de vulgarisation, même si je pense qu'elle n'aimerait pas ce terme-là. Les scientifiques n'aiment pas trop le terme vulgarisation. Mais elle est vraiment très, 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 très forte. Et donc, voilà, je suis allé voir ces scientifiques-là qui m'ont appris ça, qui m'ont donné les ordres de grandeur. Et en fait, ce travail-là, je l'ai fait, je dois être honnête, par opportunisme professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, justement, moi, je cherchais des questions... je cherchais des réponses à ces questions-là sur 6 idées reçues. Je ne les ai pas trouvées, donc je me suis dit, il y a une place à prendre, je vais faire un podcast là-dessus. Donc j'ai fait ce podcast, mais sans être écolo. C'est vraiment, voilà, opportunisme professionnel, c'est moche, mais
donc,
bon, finalement...
Donc, ce podcast s'appelle...
Yael Faulac.
Et vous êtes suivi par, à ce moment-là...
Par Ouest France. Ça, c'est eux qui me produisent...
Et par un petit nombre de followers.
Ça, je sais pas, c'est Ouest France qui avait, mais c'était, en vrai, ça marchait pas mal, parce que Ouest France a quand même une force de frappe numérique assez importante, donc ils mettaient bien en avant le podcast.
Le titre est bon, hein.
Merci. Donc. Et donc, du coup, tout ça a infusé en moi. Je me suis pas réveillé un matin en me disant... C'est bon, je suis écolo. Ça y est, c'est parti. Non, ça a infusé. Et avec toutes ces lectures, et vous savez, on suit des gens sur Twitter, donc on se crée aussi une petite bulle, en fait.
Vous me suivez ?
Je crois pas. Je dois pas vous suivre.
Non. Vous avez tort.
Parce que vous avez pas fait d'études sur le climat récemment, c'est pour
non,
ça.
Non, mais je m'en exprime.
Ok.
Je m'y exprime.
Je suis
certainement pas aussi fort que vous, ni autant militant que vous, parce que moi je fais beaucoup de cochonneries dans ma vie, comme tout le monde, mais c'est peut-être la seule chose qui m'effraie absolument.
Ça vous inquiète ?
Ah, totalement, oui. J'ai tort ?
Pas du tout.
Ah bon ? Non, parce que non, là, mais, vous regardez avec des yeux.
Non, mais enfin, j'allais pas dire que ça me fait plaisir que vous soyez inquiet, mais c'est bon signe.
Ah non, c'est pas inquiet, c'est plus que ça, moi. C'est la seule chose depuis 20, 30 ans dont je me dis, voilà, ça, c'est la chose dont l'humanité va souffrir absolument, et d'un coup, et ça va être violent. Et l'exponentialité qu'on voit, c'est-à-dire entre 5 et 10 ans de ce qui vient de se passer, vous allez me le dire vous-même, mais qu'est-ce que ça va donner dans les 5 ans prochains ? C'est-à-dire que ce qui s'est passé en 10 va se passer en 2.
Ouais, Christophe, c'est exactement ça. Et en fait, moi, pourquoi aussi j'étais pas écolo à la base, entre guillemets ? C'est parce qu'on m'a toujours dit, mais quelle planète tu vas laisser à tes enfants ? Les générations futures. Ça paraît très loin. C'est pas concret du tout. Et en plus, on est foncièrement individualiste, l'humain. Et donc, moi, j'étais très égoïste, comme je pense beaucoup de gens.
Même si beaucoup de gens de ta génération, aujourd'hui, ne veulent pas faire d'enfants pour les raisons dont on est en train de parler.
Tout à fait. Mais malgré tout, en fait, en faisant ça, justement, et ça a infusé, et je me suis rendu compte qu'il n'était pas que question des générations futures. Évidemment qu'il est question des générations futures, parce qu'on va leur laisser une planète dans un état...
Qui est déjà pourri.
Voilà, qui est pas terrible. Mais en fait, il est surtout question de notre vie à nous. Mmh. En fait, on le voit bien, là, au moment où on enregistre ce podcast, la France vient de connaître plus de 30 jours sans pluie, en plein hiver. On est dans une sécheresse inédite.
Il y a eu 10 mm dans le Cher chez moi en un mois.
C'est rien du tout.
C'est une catastrophe.
C'est absolument.
Alors, on va expliquer aussi pourquoi. C'est parce que les pluies hivernales, il n'y a pas de végétation. Donc, la pluie hivernale pénètre la terre, n'est pas absorbée par la végétation. Et donc, descend jusqu'aux nappes phréatiques.
Exact.
S'il pleut au printemps, au moment où la végétation pousse, pardon, et la végétation pompe la flotte, et à ce moment-là, l'eau ne descend pas jusqu'aux nappes, et là, après, c'est la merde. Et là, je crois qu'on y est déjà, c'est-à-dire que les nappes sont super basses.
C'est ça, exactement. Et ça, c'est lié au réchauffement climatique.
Alors, pourquoi est-ce que la chaleur a un rapport avec l'eau, puisque, je pose une question stupide, au mois d'août, il fait très chaud, et il pleut, il y a des orages. Où il y a des saisons tropicales, il fait très chaud et il y a de l'eau.
J'ai pas la réponse.
Ah merde, non, j'espérais.
Non, ça je sais pas. En vrai, je sais pas. C'est une bonne question. Je sais pas du tout. Mais le fait est qu'en fait, le réchauffement climatique perturbe le cycle de l'eau. Et en fait, au moment où effectivement, là en ce moment, on est en février, il doit pleuvoir, les nappes phréatiques doivent se remplir pour que justement on soit tranquille après.
Pas tranquille.
À
peu près.
Voilà.
Parce que ce qui s'est passé l'année dernière déjà.
Exact.
Et les spécialistes disaient au mois de septembre. L'été que nous venons de connaître sera le plus frais des futurs.
Ouais, c'est ça.
Ce qui est juste, juste paniquant, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et donc, il faut s'attendre à vivre à Séville au mois d'août, dans les années futures, tout le temps ici ?
Oui, c'est ça. Bah, et là, il y a le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui a pris la parole il y a quelques temps, pour voir comment est-ce que la France allait faire pour s'adapter à un réchauffement climatique à plus 4 degrés. Ça paraît en vrai, c'est assez flou. On dit, bon, 4 degrés, il fera moins chaud en hiver et un petit peu plus chaud en été, c'est pas si grave. Il y a une analogie qui est pas parfaite, mais qui permet de bien comprendre la situation. Si votre corps se réchauffe de 4 degrés, c'est l'hôpital. On est à 41,5.
C'est un palu.
Là, on est très, très
gros palu.
Voilà. Là, on est vraiment très, très mal. Mmh. Bah, on peut faire cette analogie sur la planète. Et c'est pas si déconnant de dire qu'il faut se préparer à plus 4 degrés en France, parce qu'en fait, aujourd'hui, là, quand on enregistre ce podcast, le monde est réchauffé déjà à plus 1,2 degrés. Mmh. Donc, c'est pas aussi qu'une affaire de génération future. On voit qu'on est quand même en plein dedans.
Mais ce degré 5, il est venu en quelques années.
Depuis les années 1850 à peu près, depuis la révolution pré-industrielle.
Tu veux dire qu'il y a déjà eu plus 0,1 à cette époque-là ?
En gros, on gagne 0,1 par décennie, pour l'instant.
Ah, ok, d'accord.
Mais c'est en train de s'emballer.
Oui, c'est ça.
Et donc, en fait, là, on est à mondialement plus 1,2, sauf que la France, de par son positionnement sur le globe, se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale. En France, on est à plus 1,8.
Y compris en Europe.
Ouais. Et donc voilà, on voit bien qu'en fait on est en plein dedans et que c'est pas qu'une histoire de génération future. Et donc moi, ce que je fais, on a mis un peu de temps pour y arriver, dans Super Green Me, dans mon podcast, dans mon nouveau podcast, c'est que j'essaie de dire, on est déjà dedans, et finalement, si on se bat pour l'écologie ou contre le réchauffement climatique, c'est pas que pour les autres, c'est aussi pour nous. Parce qu'en fait, si vous avez prévu de rester en vie encore 6 mois sur cette planète, bah vous allez souffrir du réchauffement climatique. Si vous avez prévu de rester en vie encore 5 ans sur cette planète, vous allez souffrir. Et à 10, 20 ans, c'est encore pire que ça.
Ça veut dire que même moi, je vais voir les catastrophes.
Oui, bah vous les voyez déjà, de toute façon.
Oui, de toute façon.
Mais effectivement, vous allez les voir de plus en plus.
Bah, j'ai la chance d'avoir des petites mares, des petits étangs à la campagne. C'est où on allait avec les enfants faire les cons sur la glace il y a 15 ans, c'est fini, quoi.
Ouais.
Là, on a un maillot de bain maintenant. Depuis 1800 combien ? Depuis la Révolution ?
1850 à peu près.
Voilà, on a pris 1,5 degré.
Ouais.
Sauf que là, ces 10 dernières années, on a quand même pris quasiment 0,5. Enfin, je veux dire.
Ouais, ouais.
Donc c'est
ça s'emballe, ça
va très vite.
Ouais.
Mais dans le Nord, par exemple, les forestiers commencent à remonter des plantes du Sud qu'on plante dans le Nord parce qu'on sait que là, maintenant, elles vont tenir.
Ouais.
Enfin, donc on est déjà en train d'anticiper sur la catastrophe.
On n'anticipe pas assez bien et des fois l'anticipation est assez mauvaise. On fait de la mal anticipation. Par exemple, je vais prendre un exemple parlant, il fait de plus en plus chaud. Donc on va installer de plus en plus de clim.
Ah bah, et il va faire de plus en plus chaud.
Sauf qu'au plus on installe de clim, au plus on consomme de l'électricité. Je dis pas que c'est pas...
Non, c'est pas ça. C'est surtout la source de chaleur que ça sort.
Ça sort.
C'est
en plus, les gaz, les fluides frigorigènes qui sont dans le système sont des gaz très très puissants qui ont un pouvoir de réchauffement très très puissant.
Sur l'effet de serre.
Voilà. Donc en fait, c'est un espèce de cercle vicieux.
Mais
au plus il fait chaud, au plus on met de la clim. Et au plus on met de la clim, au plus il va faire chaud.
Quand on imagine les pays qui ont des villes comme les États-Unis, par exemple, parce que Paris... On ne peut pas dire que ce soit une ville surclimatisée, mais je ne sais pas, enfin, toutes les grandes villes américaines avec ces centaines de millions d'énormes boîtes de climatiseurs, ça doit balancer toutes les voitures du monde, enfin voilà.
C'est ça.
Alors, on a mis 1850, tu dis, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 200 ans, on va dire, mais on va mettre combien de temps pour s'en sortir ?
Plus que ça.
Mais si, voilà,
plus que 200 ans,
c'est
clair.
Bien sûr.
Ouais. Bah,
si on s'en sort, parce qu'en fait, pour ne pas dépasser les fameux 3 ou 4 degrés, tu me dis si je me trompe, qui sont tant redoutés en fait. Hein.
C'est 2 degrés qui est c'est extrêmement ça. Redouté. Ouais.
D'accord.
L'accord de Paris sur le climat
c'est de, 2 degrés.
Ouais, dit qu'il faut vraiment être au max à 2 degrés et voir bien en dessous et viser le 1,5 degré. On se rend compte du coup que le 1,5 degré, c'est déjà mort.
Bon, on va être à 1,6 degré bientôt, tu penses, l'année prochaine? L'année prochaine
En France, on l'a déjà dépassé, du coup. Ouais. Et là, on est à 1,2. Donc non, dans peut-être 15-20 ans, à la moyenne mondiale, on sera déjà à 1,5.
Il y a un truc assez dramatique aussi. Ce sont les gens qui ne sont pas du tout climato-sceptiques, mais qui disent, cette espèce avec naïveté, ah, on est en février, il fait bon, hein, c'est chouette. Hein.
Ouais.
C'est grave, ça.
Ouais, ça, c'est très grave. C'est très grave, mais le problème, c'est que je pense que... C'est de la philosophie à deux balles que je fais, mais la vie va vite leur rappeler... qu'en fait, c'est pas si bien que ça. Parce qu'en fait, les gens qui disent ça, c'est potentiellement des gens qui vont souffrir d'inondations en octobre, parce qu'en fait, il y aura une sécheresse de dingue, en fait, toute l'année. La pluie va tomber tout d'un coup, ça va inonder, ça va faire des catastrophes terribles. Mmh. Ou qui vont subir des canicules dès le mois d'avril ou mai, enfin des canicules très précoces.
Tu crois que ça va changer les mentalités, ça ?
Ouais, je pense. Je pense, et moi, je viens du sud-est de la France, qui est en cata, effectivement, dans une petite ville où il y a beaucoup, beaucoup d'inondations toutes les dernières années. Et c'est des territoires historiquement très à droite. Donc, de fait, pas très écolo, on n'aime pas ça, on aime bien sa grosse voiture, etc., etc. Et bien maintenant, les municipalités sont les premières à dire, bon, en fait, ok...
Bah, on va pas laver les bagnoles.
Ouais, en fait, on va peut-être faire d'autres choses.
On va pas remplir les piscines.
Voilà. Et là, dans le Var, il y a un maire qui, par exemple, vient d'annoncer qu'il va plus donner de permis de construire, parce qu'en fait, il y aura plus suffisamment d'eau pour amener de l'eau potable à ces nouvelles maisons si les permis de construire étaient délivrés. Mmh. Donc on en est là. Donc je me dis que oui, effectivement, alors bon, 100% des gens qui vont avoir ces conséquences ne seront pas convaincus de ces choses-là, mais je pense que malheureusement, et c'est d'ailleurs trop tard, mais bon, tant pis, une grande partie de ces victimes-là vont se rendre compte de ça.
Je voudrais revenir au mail dont on parlait tout à l'heure, parce que, ouais. c'est les fausses bonnes idées qui font alors ne pas avancer les choses.
Ouais.
Je te garantis que je fais gaffe avec mes mails. Et j'ai donné des consignes au bureau, et tout le monde est persuadé, enfin, on était tous persuadés, je pense, que les mails étaient quelque chose de très mauvais pour la planète. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc dont il faut se foutre, mais en revanche mettre d'autres choses en avant, alors?
Il y en a beaucoup.
Je sais, mais que chacun peut faire. Évidemment, couper l'eau quand on se brosse les dents.
Ça sert à rien. Ça sert à rien, Christophe. Franchement...
Mais c'est pas... Oui, mais alors là, ça veut dire qu'il y a un problème avec les gamins. Parce que les gamins dont on pense qu'ils sont très impliqués déjà, parce que nous ne sommes pas nous les adultes, les gamins, c'est le premier à fermer un robinet pendant qu'il coule.
En soi, je dis pas que c'est pas bien de le faire, attention.
C'est pas ça, ça.
Mais si. Parce que si, je vais prendre un exemple un peu caricatural, mais qui, bon, je pense, n'est pas forcément très éloigné de la réalité. Si on vit dans une maison avec une piscine, et que les enfants, le soir, ferment le robinet pendant qu'on se brosse les dents. Le problème, c'est la piscine. Le problème, c'est pas l'eau qui coule pendant qu'on se brosse les dents.
Ah oui, d'accord, oui, d'accord.
J'extrapole un petit peu, mais pour qu'on comprenne. En fait, ce qui est super important dans l'écologie, c'est d'avoir les ordres de grandeur. Et justement, ça, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire avec le podcast Super Green Me. En fait, de dire... Super Green Me.
Voilà, non, mais je le répète bien pour qu'on entende.
C'est de se dire, en fait, on ne sait pas combien on pollue. Et on ne sait pas quelle est notre responsabilité individuelle sur le réchauffement climatique. Et c'est pas, entre guillemets, c'est pas de notre faute, parce qu'on nous l'a jamais appris. Littéralement, on ne nous l'a jamais appris. Donc en fait, je dis, pour limiter en gros le réchauffement climatique à 2 degrés, ce qui est déjà beaucoup, mais bon, pour le limiter à 2 degrés, il faut que, individuellement, en 2050, on pollue tous au maximum 2 tonnes de CO2 par an.
Et là, on est à combien en moyenne ?
On est à 10 tonnes aujourd'hui.
Oh putain.
Donc en gros, aujourd'hui, on est à 10, en 2050, on doit être à 2. Et ces petits gestes pour le climat, ou ces petits gestes pour la planète, comme on dit, c'est dans le titre, c'est des petits gestes pour le climat. Et voilà. Donc avec des tout, tout, tout petits effets. En revanche...
Oui, mais celui qui n'a pas de piscine, c'est utile s'il ferme le robinet quand même.
Franchement, je préfère qu'il mette le poids de son corps ailleurs. Parce qu'en fait, il faut dissocier les petits gestes pour la planète de l'action individuelle qui, elle, a du sens. Je vais donner un exemple encore très concret. L'objectif, donc, à terme, par an, c'est d'émettre que 2 tonnes de CO2. 2 tonnes de CO2, ça représente quoi ? Ça représente un aller-retour Paris-New York en avion. Donc, en un aller-retour Paris-New York en avion, on a cramé son budget annuel carbone cible pour 2050.
Alors...
Voilà ce que c'est une action individuelle qui a du poids.
J'entends, mais c'est pour ça qu'on dit on va mettre plus de 200 ou 300 ans à s'en sortir, parce que comment demander au pays d'arrêter de faire de la croissance, tous, parce que s'il y en a un qui ne court pas la croissance, tous les autres vont faire. Comment on peut demander aux gens de prendre un billet d'avion par an minimum, et encore, Ça veut dire que le reste du temps, ils mangent pas de viande, ils boivent pas de lait, ils prennent pas d'eau, etc. Enfin, comment on n'a pas le cul sorti des ronces du tout, là?
Non, ça c'est clair. La bonne nouvelle, c'est que donc, moi, je me suis lancé ce défi d'essayer de vivre à 2 tonnes, enfin de m'approcher d'une empreinte carbone à 2 tonnes de CO2 dans ce podcast.
Donc tu voyages pas?
Pour essayer, en fait, de voir si je voyage. Justement, c'est ça la bonne nouvelle.
En
c'est
avion.
Non, c'est tout, effectivement. Mais en fait, je voulais vraiment voir à quoi allait ressembler la vie en 2050 si on respecte en fait ces objectifs-là. De voir si en fait on allait clairement avoir des vies de merde et qu'on allait vraiment tous être dépressifs. La bonne nouvelle, c'est que pas du tout. On peut continuer à voyager, on peut continuer à manger, on peut continuer à se doucher, on peut continuer à s'habiller, on peut continuer à avoir des amis, à être en couple, à faire la fête, mais différemment. Effectivement, on est parti sur des bases qui sont pas terribles, pour pas dire qui sont mauvaises. Mais en revanche, voilà, on peut voyager. Faut voyager en train.
Paris-New York, c'est plus long.
Ouais, c'est plus compliqué. Effectivement, il y a un rapport en fait au voyage qui va être complètement différent et qu'il faut réinventer. Ça, je suis d'accord.
Ça veut dire que le tourisme à travers le monde est mort. Mais à juste titre.
Il va être vraiment différent. En tout cas, il va être vraiment différent. Et ce qui est juste, c'est que cette transition-là, elle va demander une quasi-révolution de tous les pans de notre vie. C'est-à-dire qu'en fait, si effectivement, pour aller à New York, on doit prendre un voilier qui va mettre 2 semaines. Effectivement, là, on se rend compte que nos 5-6 semaines de congés payés par an qui sont dans le droit du travail, c'est un petit peu limite.
Non, même pour le travail, pour le travail mondial.
Ouais, effectivement.
Mondial.
Voilà, il va falloir revoir beaucoup de choses, mais malgré tout, c'est possible et on va pouvoir vivre, mais on va vivre de manière différente, ça c'est clair.
Tu veux boire quelque chose? Mais je sais pas quoi t'offrir parce que de l'eau.
Petit verre d'eau, je veux
un
bien.
Tout petit,
ouais.
Alors.
Ouais, un petit verre d'eau.
Un dé à coudre. Un dé à coudre de flotte. Très bien. Non, mais là, je vais rejoindre ma fille, par exemple, qui est à l'étranger. Je te dis la vérité. Quand tu m'as dit Paris, New York, bon, moi, c'est à peu près le double de distance. Et je me dis, donc là, je crame en une fois mes deux années carbone.
Oui.
Donc, je reste au lit pendant 2 ans. Ça va pas me faire de mal.
Après, ça...
Ça va me faire des escars. mais ça va pas me faire de mal.
Ce qu'il faut se dire, Christophe, c'est que ça, c'est l'objectif en 2050 aussi. Faut y aller progressif.
Tu dois avoir plein de gens qui disent ça.
Ouais,
qui se disent, oh, après moi le déluge.
Il y en a beaucoup, ouais. Il y en a beaucoup. Mais, non, effectivement, mais en fait, il faut. Ce qui est aussi important à comprendre, c'est qu'il faut y aller de façon progressive. Le but, c'est pas qu'on soit tous des amiches, entre guillemets, comme avait dit le président il y a quelque temps. Il faut, voilà, il faut que cette transition, elle soit progressive, elle soit durable. Et effectivement, vous êtes né, Christophe, et je suis né dans une société qui valorise le fait de voyager loin en avion. C'est bien. Réussir sa vie, c'est avoir une grosse bagnole, c'est avoir une villa seconde.
Non, ça, pour le coup, non. Mais c'est vrai que s'ouvrir l'esprit, c'est voir le monde. Oui, ça, c'est sûr.
Voilà. Après, on peut aussi remettre en question le fait de voir le monde depuis un hôtel 5 étoiles.
Oui, mais quel rapport entre un 5 étoiles et un 2 étoiles?
Non, mais c'est se dire, en fait, si on va bouffer un McDo avec du coca sur une plage au Costa Rica, finalement, l'ouverture au monde, elle est quand même assez limitée. Enfin, il faut aussi remettre un peu en perspective. On nous vend beaucoup ça, de se dire, mais on va voir d'autres cultures, on va rencontrer d'autres gens.
Ah, moi, j'adore voyager.
Au final... Non, mais bien sûr, mais... Enfin voilà, déjà il faut un peu, je pense, relativiser ce truc de c'est pas forcément une ouverture au monde, ça peut évidemment l'être.
Ouais, quand même, l'être, mais... à une époque, 70% des gouverneurs américains n'avaient pas de passeport, on peut pas dire que ce fut une ouverture d'esprit énorme. Ouais. C'est vrai que c'est... Donc tu voyages plus, tu prends plus l'avion.
Je prends plus l'avion, mais je voyage. Je voyage.
En Europe.
En Europe, ouais.
Ouais, c'est ça.
Là je reviens d'un voyage en Angleterre. Et en plus, je vais du coup dans des destinations auxquelles j'aurais pas du tout pensé avant. Et je me fais quand même plaisir dans ces destinations. J'ai découvert la campagne anglaise, il y a pas très longtemps. Il faut reconsidérer le voyage.
Mais comment t'expliques alors que... Et en plus, c'est ouf parce que ça a évidemment pris une proportion dingue dans la somme. Enfin, je veux dire, c'est pas dans le département, mais dans le prix que ça coûte. Il n'y a pas un avion vide. Les avions sont blindés. Blindés.
Mais c'est pour
parce
ça
que les gens ont aussi, après le confinement, besoin de dépenser un peu leur oseille,
ouais,
de prendre l'air, de partir.
Ouais.
Bah, c'est pour et ça puis la vie est morose.
Ouais, pas pour tout le monde, mais...
La vie est compliquée, la guerre,
bien sûr.
Le climat, le
bien
machin.
Bien sûr. Après, bon, elle a toujours été compliquée, je pense, la vie.
Oui.
Et en vrai, je trouve qu'on est quand même né à une période de l'histoire qui est en vrai pas dégueu, si on met de côté le changement climatique. on s'en sort pas si mal que ça.
L'inflation, les problèmes de sous.
Ouais, mais bon, la Première Guerre mondiale, la deuxième, enfin.
Bah, et là, une guerre en Europe.
Oui, 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 mais enfin bon, moi, j'ai pas le cul dans les tranchées.
Non.
Voilà, donc en vrai, je m'estime relativement chanceux.
Par rapport aux gens qui habitent en Ukraine, voilà. C'est, tu as énormément de chance, même. On a tous de la chance.
Donc,
par exemple, les gens, en t'écoutant, en gros, c'est formidable cette mobilisation et la façon dont tu l'exprimes, parce que c'est très doux, très calme, c'est pas militant, agressif. D'ailleurs, à ce propos, qu'est-ce que tu penses des coups d'éclat que font les groupes écolos, que ce soit dans les musées ou sur les portes de ministères ou avec de la peinture, etc.
Est-ce que vous connaissez le nom du mouvement qui fait ça?
Ne me cherchez pas.
Est-ce que vous connaissez la revendication de ce mouvement? Non plus. Ça sert donc du coup, c'est pas une bonne.
Alerté sur le problème écologique. Voilà.
Ouais, mais c'est dommage parce qu'en fait, donc ce mouvement s'appelle Dernière Rénovation. Donc c'est eux qui ont perturbé il y a quelques temps la cérémonie des Césars, qui ont effectivment repeint la porte des ministères.
De l'écologie, oui.
Ouais, ouais. Et c'est dommage parce que ce mouvement...
Ceux qui bouchent les autoroutes avec des gaz par terre.
Exactement, exactement. Ils ont donc une méthode d'action dans laquelle moi je ne me retrouve pas vraiment. En revanche, leur revendication, leur seule et unique revendication, elle est essentielle, elle est... très très importante, c'est la rénovation du parc immobilier français, enfin de tous les bâtiments français. Parce qu'en fait, il y a une quantité de passoires thermiques en France qui est absolument terrible.
Un nouveau mot qui est apparu l'année dernière.
Ouais,
passoires thermiques, c'est apparu vraiment...
Ouais, ouais. Et alors, en fait, c'est effectivement un énorme problème écologique, parce qu'en fait, du coup, il y a des quantités de
d'énergie.
Gaz à effet de serre qui sont dépensées, qui sont terribles. Et en plus, d'un point de vue économique... Les gens, du coup, payent beaucoup plus cher leurs factures d'énergie. Et là, on l'a vu notamment cet hiver. Donc, c'est vraiment une revendication qui est très, très, très importante.
Bah, tu vois, je ne savais même pas que c'était cette revendication-là.
Voilà, et en fait, on ne le sait pas. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas en phase vraiment avec ces actions-là. Je trouve ça dommage parce que je trouve que ces actions, du coup... Alors oui, on sait que c'est pour la planète, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Le message est très important. Et donc, c'est pour ça que moi, mon approche de l'écologie, pour le coup, c'est vraiment pas celle-ci. J'ai une approche qui est très pédagogique. Voilà, j'essaye vraiment de discuter avec les gens, de prendre le temps de leur expliquer les enjeux, les ordres de grandeur.
Il y a combien de personnes qui vous suivent?
J'ai 15 000 abonnés au podcast.
Mmh.
Et
plutôt des... Vous savez de quoi il est composé, ce public ?
Plutôt des femmes. Plutôt des femmes et relativement des jeunes. Mais ce qui est...
Donc les femmes sont plus sensibles à l'environnement que les hommes, ouais.
Je sais pas. Après, ça reste du podcast. Peut-être que les femmes aussi consomment plus de podcasts. Je sais pas. Enfin, j'ai pas vraiment la raison du pourquoi, du comment, mais...
Peut-être que les femmes consomment aussi plus de... Mais le podcast, ça ne produit pas de choses mauvaises,
si.
Pour faire un podcast.
Mais en fait,
mais tu vois, c'est ça le drame.
Eh ben,
fais un podcast pour expliquer que... Non, mais vous voyez ce que je veux dire.
Ouais, mais c'est super intéressant, ça. Ouais. Parce qu'en fait, non. En fait, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que un écolo et vivre de façon responsable, entre guillemets, c'est pas n'émettre zéro CO2.
C'est impossible.
C'est pas possible, on est tout à fait d'accord. En fait, le but, c'est de vivre de façon soutenable. C'est-à-dire, donc... pour 2050, comme je l'ai dit, c'est à peu près 2 tonnes. On a un droit à polluer, entre guillemets, jusqu'à 2 tonnes par personne. Donc en fait,
on est à 10.
On est à 10,
ouais. Et ceux qui font gaffe comme toi, t'es à combien?
Moi, là, j'étais redescendu à 5, je crois.
Ah, tu te rends compte?
Ouais.
Sans prendre l'avion?
Sans prendre l'avion, ouais. Et sans manger beaucoup de viande.
Oui, parlons-en de la viande, parce que ça, c'est très important.
Ouais.
Un steak haché, 2000 litres, ça, c'est vrai?
Non.
C'est pas possible.
Ouais, c'est pas tout à fait juste.
Parce que moi
ce
de chiffre, j'ai appris ça.
C'est une étude américaine. C'est beaucoup de litres, mais c'est pas tant que ça, en France en tout cas. Parce que ça, ce chiffre-là, il est issu d'une étude américaine qui depuis a été un peu contredite. Mais bon, ça reste beaucoup de litres d'eau. Et le problème avec la viande, c'est qu'il y a effectivement l'eau, mais il y a aussi l'impact direct sur le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'en fait, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre.
Et les paix. Les paix de vaches, sans déconner, hein.
Les ronds.
Les ronds.
Les ronds.
Pas les proutes.
Beaucoup moins. Je crois que c'est trois quarts des ronds.
C'est l'inverse de moi.
Un petit peu. Ça, je sais pas. On n'est pas suffisamment copains, peut-être bientôt.
Oui,
mais...
bientôt, oui, c'est ça, oui. Enfin, on n'est pas prêts de dormir ensemble, c'est quoi ça. Qu'il. Même si on est copains. Est-ce que tu ne trouves pas, pour le coup, que même une fausse rumeur comme ces fameux 2000 litres dont tu es en train de me dire. Moi, je te crois, mais j'ai lu. Hein.
Ouais.
J'ai lu dans des papiers.
Oui, ouais, je sais. Parce qu'en fait, c'est un chiffre qui vient d'une étude américaine. Mais il y a une autre étude française de l'INRAE qui a été faite.
Ouais.
Et qui montre que c'est, je crois, de mémoire, c'est plus 600 litres d'eau. Enfin, c'est entre 200 et 600 litres.
Ok, alors, ok. Non, c'est 2000 beaucoup. Litres, c'est beaucoup, mais 600, ouais. 600 enfin, non, 2000
non,
litres,
c'est beaucoup aussi.
600,
ouais,
c'est beaucoup. Pour un steak haché. Un steak haché. Donc, t'imagines l'impact. Et moi, moi qui étais un carnassier, mon truc maintenant, c'est de dire aux gens, tu sais combien c'est un steak haché ? C'est 2000 litres, parce que ça frappe au moins.
Ouais.
Donc, est-ce qu'il n'est pas parfois utile de balancer une rumeur, peut-être un poil exagérée, pour choquer l'esprit ? Parce que si on me dit un steak haché, c'est 500 litres, oh, 500 litres, c'est quoi ? Oh, 2000 litres, tout d'un coup, tu te dis, attends, c'est pas possible. Je peux pas faire claquer 2000 litres d'eau. Alors. Pour un steak haché de 150 grammes.
Je ne suis pas tout à fait en désaccord avec vous, Christophe. En revanche, enfin, moi, je suis quand même partisan de dire qu'on peut quand même choquer avec des vrais chiffres. par exemple, là, ce que j'ai réalisé en faisant Super Green Me, mon podcast.
D'ailleurs, ouais. Deux secondes, Super Green Me a gagné le prix du podcast festival. Ça fait plaisir.
Ouais, ça fait très plaisir.
Enfin, attends, parce que moi, je suis à peine arrivé. Hein. Mm. Mais c'est déjà bien comme ça, au moins, tu l'as.
Oui, ben, je l'ai eu avant vous.
Voilà.
J'ai profité qu'il n'y ait pas de concurrence.
Et celui des podcasts préférés d'Apple Podcasts.
Ouais.
Ça, mais j'avoue super, ouais. Que j'ai pris un plaisir inouï à t'écouter.
C'est d'abord gentil,
parce qu'il y a différentes longueurs et tu as vraiment une façon de t'exprimer qui est très agréable. On revient en arrière sur les rumeurs et les choses à dire.
Ouais. Ben, moi, je pense qu'il faut quand même... choquer entre guillemets les gens avec des vrais chiffres, comme ça on est absolument incontestable, parce que si on dit comme ça un chiffre qui est pas trop loin de la vérité mais qui ne l'est pas vraiment,
qui vient d'une étude scientifique américaine quand même,
tout à fait, mais bon malgré tout on peut être repris en fait par des gens qui sont
comme toi
non qui justement sont pas convaincus de cette chose, on dit non tu vois tu dis une connerie, c'est pas vrai, les écolos ils en font des caisses machin, donc je pense qu'on peut vraiment choquer avec des vrais chiffres. Et moi ce que j'ai découvert dans Super Green Me en calculant mon empreinte carbone, c'est que avant ma façon de m'alimenter, donc avant cette expérience là je mangeais de la viande tous les jours. J'adore ça.
Moi aussi.
J'adore la viande. J'en mangeais vraiment tous les jours. Pas à tous les repas, mais en tout cas tous les jours.
C'est pas très bon non plus, pour la santé.
Non, en plus, ouais, mais c'est bon pour rien. Ouais. Enfin, vraiment, c'est ça qui est terrible. Mais on y retourne. Bon. Rien que mon alimentation, elle émettait 2,5 tonnes de CO2 par an. Rien que ma bouffe. Donc en fait, rien que mon alimentation, c'était plus que l'objectif cible de 2 tonnes en 2050.
Donc 2 tonnes, c'était la bidoche.
Quasiment. La viande, c'était 1,5 tonne, je crois, de mémoire.
Les végétariens, en fait, sont des formidables écolos. Les véganes, ouais. Les véganes encore plus.
Ouais, les véganes encore plus, ouais.
Alors là,
d'un point de vue de l'alimentation, ouais, c'est très très bien.
Et
ouais.
L'alimentation, des vêtements et
ouais,
tout ça.
Ouais,
complètement. Et toi, qu'est-ce que tu manges ?
Quasiment, maintenant, je mange très 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 peu de viande.
Et des pâtes ?
Mais pas que. Non, mais en fait, il faut repenser un peu ses assiettes, parce qu'effectivement, dans nos assiettes, nous, on a de la viande et un accompagnement. C'est sûr que si on enlève que la viande, on n'a plus que l'accompagnement, donc ça fait pas envie. Uh-huh. En revanche, si on repense un peu tout ça, avec des légumineuses, avec des céréales, avec des légumes, on se fait vraiment plaisir.
Et le poulet, tu le mets dans la viande ?
Le poulet, je le mets dans la viande, ouais.
Ah oui, ouais, c'est ça. Ouais. Même à deux pâtes, ça comme quatre.
Ça compte quand même.
Ok. Et ta chemise, elle est en quoi, là ?
J'en sais rien.
D'accord. Mais... Je me demandais si t'allais jusqu'à...
Alors oui, mais parce qu'en fait, cette chemise-là que je porte, je sais pas quelle est sa matière, mais en fait, elle est vieille. Je l'ai pas achetée récemment.
D'accord.
En fait...
C'est une quatrième main.
Non, c'est une première, mais
de
en fait...
De ton grand-père italien.
La montre est de mon grand-père,
très bien.
Par exemple. En fait, les fringues, mais comme tout ce que j'achète dans ma vie, j'essaie de les faire durer le plus longtemps possible. Pour
il
avoir,
faut.
Du coup, pour acheter le moins possible. Voilà, là, mon téléphone que j'ai sur moi. Hop, je vais vous le montrer.
C'est un iPhone 2.
C'est un vieil... On voit qu'il a servi, cet iPhone. Alors, c'est un iPhone, effectivement.
Oui.
Et c'est ça, la bonne nouvelle. C'est que être écolo, c'est pas s'empêcher de vivre. C'est pas se couper complètement de la société. On peut encore avoir un iPhone, on peut voilà, mettre une chemise, on peut venir chez Christophe de Chavannes, enregistrer un podcast, et on doit pas se flageller pour autant.
Surtout pas pour le dernier truc.
Effectivement.
Donc.
Non, mais en fait, on peut vivre, mais il faut vivre de façon soutenable. Donc acheter un iPhone, même si effectivement...
Comment tu veux empêcher toute cette génération qui représente des millions, pour ne parler que des ados, qui n'ont qu'une idée en tête, c'est d'avoir le nouvel iPhone.
Ouais.
C'est un truc de ouf. Mmh. J'ai eu des heures de conversation avec ma gamine pour dire, on s'en fout quoi. Comment tu peux changer ça, sachant qu'en plus, quand tu allumes la télévision, qu'il ne faudrait pas avoir, parce que j'imagine que l'empreinte carbone de la télé, c'est une grosse daube.
C'est pas terrible. Ouais.
Combien ? Combien?
Franchement, je sais pas, mais bon, c'est enfin comme tous les appareils numériques, c'est beaucoup. Ouais.
Voilà. Et qu'à la télé, quand tu l'allumes, on te fait de la pub pour le nouveau, peu importe la marque.
Ouais. Bah, en fait, le problème.
Donc il y a cette course permanente.
Ouais, mais ça, tout à fait. Le problème, c'est la pub, et donc du coup, il y a l'action individuelle, tout ce qu'on peut mettre nous en place dans notre vie et dont on va se sentir capable, parce qu'en fait, ça nous demande aussi un travail sur nous. Et c'est ce que je dis, il faut que cette transition elle soit durable, donc il faut qu'on fasse des choses qui ne soient pas des sacrifices au quotidien, parce que sinon on ne s'en sort pas. Et ensuite, pour toutes les autres choses, tout ce qu'on ne peut pas... Enfin voilà, il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir faire nous, il faut que l'État légifère. Parce qu'en fait, si les gouvernements ne prennent pas leurs responsabilités, notamment là sur la publicité, c'est un très bon exemple, si on ne légifère pas sur la pub, comme on a pu le faire notamment sur les cigarettes et sur l'alcool, par exemple... On l'a fait il y a quelques temps.
Oui, ça a marché. Oui.
En tout cas, on peut aussi imaginer une loi E20 sur le climat, par exemple. De dire qu'en fait, demain, il n'y a plus de pub pour des produits climaticides. Plus de pub pour des voyages en avion, pour...
Et on va te rétorquer, oui, mais ça va foutre des milliers ou des millions de mecs au chômage.
Alors, le problème, c'est que vu nos sociétés, ça ne va pas les mettre beaucoup au chômage en France, parce qu'en fait, beaucoup de nos produits de consommation viennent pas de chez nous. Et effectivement, et c'est pour ça que je redis, le but de tout ça, c'est que la transition, elle soit progressive et durable. On ne demande pas à ce que Air France ferme ses portes demain.
Bah non, parce que tu ne vas pas mettre tous les pilotes de ligne et le personnel...
Voilà, et en fait, ça va prendre du temps, et c'est pour ça qu'il faut se bouger vraiment dès maintenant, pour que cette transition puisse se faire dans la douceur. Mais le problème, c'est que, bah, d'un autre côté, je prends un contre-exemple un peu piquant, mais pour bien marquer ça, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on préfère ? Est-ce qu'on préfère que ces gens perdent leur boulot maintenant, ou est-ce que, en fait, on va dans un monde à plus 4 degrés, où, en fait, bah, l'espèce humaine n'a plus de survie ? Malheureusement, c'est ça qu'il faut mettre en face, aussi. Mmh. C'est pas très joyeux, je suis désolé.
Non.
Je plombe un chouïa l'ambiance.
Non, mais on va finir là-dessus.
Mais... Ah,
non,
ouais.
Oui, je suis pas bien.
Il faut trouver un truc un peu plus joyeux.
Non, en plus, tu sais quoi, ce qui va entraîner surtout, c'est une certaine culpabilité chez les gens. C'est-à-dire que maintenant, un mec qui va monter dans un avion, il va s'asseoir dedans, il va dire « Putain, je suis en train de bouffer un an de mon bilan carbone, en gros de mon stock, et donc je suis une merde. »
Non, il faut pas se dire ça. Franchement, il ne faut pas se dire ça.
Ça tombe bien parce que putain, je prends l'avion lundi, moi.
Ne vous dites pas ça dans l'avion, Christophe. Il faut se dire que vous allez essayer de réduire.
Mmh. Oui, oui, oui.
Je dis une bêtise, mais si vous partez deux ou trois fois en avion par an, de se dire, bah, en fait, ok, je vais partir plus qu'une fois ou deux cette année. Pareil l'an prochain, dans deux ans, je me fixe un objectif 1.
Tu connais, j'imagine, il s'appelle Jacobici.
Jacobici.
Ouais. Lui, il dit zéro.
Oui, voilà, parce que mais lui, il aime bien des phrases qui sont reprises dans les médias et des trucs un peu chocs.
Tu penses quoi de cet homme ?
J'en pense relativement du bien. Mmh. Il a co-écrit la BD qui a été le mieux vendue en 2022, Le Monde sans fin, l'an dernier, qui est une très bonne BD. Qui a quelques points négatifs, parce qu'en fait, Jean Covici, du moment où il ne parle pas d'énergie renouvelable et de nucléaire, il dit des très très bonnes choses, et ensuite il est tellement, lui, pro-nucléaire, que parfois il défonce les énergies renouvelables avec des arguments un peu chocs qui ne sont pas, du coup, forcément très vrais. Mais sinon, lui, il est très important, et il faut qu'un ingénieur comme ça soit plus vu dans les médias, justement pour faire passer ce genre de message.
Lucas Caltretti, pour finir ce podcast, on peut raisonnablement être optimiste ou pas ?
Tout dépend de ce qu'on met dans l'optimisme. En vrai, oui. Moi, ça ne me ressemble pas. Mais je suis assez optimiste. Je pense qu'on n'arrivera pas à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, voire à 2, ça c'est clair. Mais ce qu'il faut se dire, et c'est bien qu'on finisse là-dessus, tiens, c'est que c'est jamais foutu. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un moment donné où on va perdre la partie. On va se dire, bon, on n'a pas réussi à 2, bon, ben, en fait, c'est fini. C'est mort, non, tant pis. C'est
l'homme est ainsi fait.
Non, en fait, si on ne réussit pas à limiter le réchauffement climatique à 1,7 degré, il faut se battre pour le limiter à 1,8, ou à 1,9, ou à 2, ou à 2,1.
De toute façon, on va tellement en chier qu'on va être obligé.
Non, mais en fait, c'est ça, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais chaque dixième de degré en moins, c'est des canicules en moins, c'est des inondations en moins, c'est des espèces qui survivent, c'est des conditions qui sont un peu moins défavorables
à la planète.
À la planète. Enfin, mmh. À l'humanité. Pas la planète.
Oui,
parce qu'en fait, la planète, elle va survivre sans nous. Mais voilà. Donc non, c'est jamais foutu. Il faut toujours se battre pour limiter le plus possible le réchauffement climatique.
On n'est pas encore à la fin du monde. Mais.
Non.
Mais si on laisse filer.
Ah, c'est clair que si on ne fait rien, là, par contre.
Heureusement qu'il y a des gars comme toi. Bravo. Et puis j'espère
Merci, Christophe.
J'espère que tu vas faire des émules. Et je vais annuler mon billet de lundi. Voilà. Bon, à très vite alors.
Hein, à bientôt.
Ben voilà, j'ai un nouveau copain, c'est parfait. Salut Lucas.
Salut.
Ciao.
Et je chante même. De ça va, cherche copain. Copain. De ça va, cherche copain.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.